Maintenant, si Marie-Thérèse Urvois veut bien venir, elle va nous parler du Coran, parole vécue et parole ressentie.
Le titre que vous avez trouvé sur le sur l'affiche pouvait aussi bien être de la réception de la parole chez le croyant. Dans de nombreuses circonstances, le croyant, qui est le seul musulman dans le Coran, frappe par sa certitude dans sa croyance. Pourtant, la loi est simple et claire, attester l'unicité de Dieu, obéir aux prophètes et au Coran, accomplir les 5 prières quotidiennes, etc. Donc, ainsi, tout musulman peut dire si oui ou non il remplit ses obligations. Il sait s'il a obéi aux ordres divins ou pas. Mais être satisfait de sa conduite, lorsque le croyant y parvient, ne suffit pas à expliquer sa conviction sa conviction de la religion qu'il suit. Assurément, la solidarité extraordinaire qui unit les musulmans en une communauté compacte crée chez chacun un sentiment de satisfaction sécurisante, d'autant plus que le Coran leur rappelle qu'elle est le fruit d'une faveur particulière de Dieu, comme indiqué dans le Coran au 303 et au 863. Mais là aussi, se sentir solidaire et même en fusion dans le groupe n'explique pas la certitude chevillée au cœur de la religion que l'on suit. Lors d'un cours de charia traitant des transgressions et des peines encourues par les pécheurs, un étudiant s'était hasardé à interroger sur la conformité de la cruauté de certaines peines avec la miséricorde prônée par le Coran. Il lui fut répondu qu'aucun musulman n'était sanctionné inopinément. Ce qu'il risquait lui était clairement révélé dans le Coran. L'enseignement du Coran est simple et immédiat. Cela participe à son évidence dans les cœurs et dans les raisons. Cette assurance étonnante du musulman dans un cercle clos de logique hermétique doit être rattachée au concept même de l'homme croyant dans le Coran. Ce concept repose sur une base à double socle. 1. La simplicité et l'immédiateté du contenu dogmatique et doctrinal. 2. Les qualités formelles du style coranique qui aboutit au prodige à valeur dogmatique de l'inimitabilité du Coran. Dans le premier socle, on trouve tous les éléments constitutifs de la théologie naturelle, à savoir tout ce que la nature concrète fait saisir sur Dieu, son créateur, et sur toute la création, à commencer par l'homme, la plus importante des créatures. Le Coran contient également un enseignement spécifique, une exigence dans le mode de vie que Maududi exprime ainsi. Il a révélé le juste code de vie. Ce faisant, il justifie l'autorité du prophète et d'autres commandements assimilés. À ce niveau, on ne parle plus des mêmes critères de vérité. L'enseignement relève d'autres causes. La théologie naturelle semble écarter tout surnaturel. Pourtant, concomitamment, d'après le Coran, Dieu intervient dans l'histoire, envoie des prophètes pour rappeler aux hommes cette théologie naturelle et leur dicter un code de vie. L'ensemble des actes divins donne à l'islam un statut particulier et fera dire à Muhammad Abdou que l'ultime révélation est descendue lorsque l'humanité avait atteint la maturité nécessaire pour la recevoir. Somme toute, le Coran offre une théologie naturelle en tant que rappel surnaturel adressé après avoir été mérité à une communauté qui le soutient et le promeut. Le Coran s'éroge une part de surnaturel dans la mesure où les théologiens parlent de la surnaturalité des miracles, nonobstant le fait que l'homme, lui, demeure à l'état naturel. La difficulté persistante est que dans la vie ordinaire, la réalité des rapports entre créature et créateur sont de l'ordre intime. Toutefois, le Coran révèle un Dieu qui s'intéresse à sa création. Il envoie aux hommes messagers et envoyés pour qu'ils puissent parvenir au paradis. Il veut leur salut et s'intéresse à leur présent comme à leur avenir. Cette intervention personnelle de Dieu comporte donc une théologie naturelle et fait que le Coran soulève la question des rapports de Dieu à l'homme, croyant ou pas. Dans le Coran, l'homme est un être intelligent. Le Coran lui expose les signes sur l'existence, la sagesse, la toute-puissance, la miséricorde divine. Les apologètes musulmans contemporains, pour démontrer le caractère rationnel et pédagogique du Coran, soulignent les occurrences des formules coraniques telles que « pour un peuple qui réfléchit, qui raisonne, qui médite, etc. » mais aussi des vitupérations, alors que vous savez, vous persistez dans telle position, etc. Dieu enseigne donc tout au long du Coran tout ce que l'homme ne sait pas. Le thème du savoir est capital dans le Coran. Parmi les hommes, seuls les savants craignent Allah. 35-28. De telles assertions révélées en boucle ont un effet considérable sur le mental du musulman. Toute sa vie, il s'emploiera à théoriser, à justifier sa certitude psychologique. On ne peut s'empêcher de se souvenir de Louis Massignon et de l'une de ses formules, aussi brillante que caricaturale, répartissant les trois vertus théologales par l'affirmation que « Si Israël est enraciné dans l'espérance, la chrétienté vouée à la charité, l'islam est centré sur la foi. » Il cita aussitôt la parole que lui adressa un musulman lambda « Vous autres, vous savez, mais nous, nous croyons. » Ce qui contredit d'ailleurs ce que nous venons de voir concernant le savoir. Ce cite est à considérer avec la tradition prononcée par le prophète « Personne n'a reçu autant de certitudes que ma communauté. » L'esprit et le cœur du croyant seront toute sa vie modelés par cette parole et la tradition qui l'accompagne. En faisant fi des contradictions ou autres incompatibilités comme nous l'avons vu, son vécu comme son ressenti s'en remettent d'une part à la parole révélée dans le Coran en ipsissima verba dei et d'autre part à l'enseignement du prophète et à celui des savants tels que Razali, qui professa que, je cite, « tout savoir qui ne procure pas de sécurité à man n'est pas un savoir certain. » Le constat est net d'une superposition d'une valeur spiritualisée de la parole dans le Coran avec une fonction concrète expliquée et enseignée par les théologiens qui procurent l'ataraxie de la conviction. Ainsi, Razali, dans son Ihya, indique-t-il que la lecture du Coran, on cite, ouvre aux hommes la voie du raisonnement et établit la différence entre licite et illicite. Et les lumières et guérisons, il y a des châtiments pour ceux qui s'y opposent en recherchant une autre science. Il prend ensuite, il prend appui sur le verset. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. 15.9. Dans sa somme de spiritualité, Razali développe les trois niveaux de réception du texte par le musulman. 1. celui de la récitation personnelle et gratuite pour Dieu. 2. Celui de la récitation intériorisée et métaphysique. Le croyant récite devant Dieu, qu'il ne voit pas, mais en étant vu par lui. Le troisième niveau, hisse le croyant à voir dans la parole celui qui parle, à voir dans les paroles les attributs divins. Le croyant ressent infuser en lui tout ce qu'il doit connaître et retenir de son Créateur. Bien que Razal y fait aussitôt une précision de forme restrictive en disant « Ce niveau est réservé aux proches de Dieu, al-muqarrabun. Ce n'est point celui du commun des hommes. » Donc le croyant est conforté dans la conviction que procure le Coran. Ici, n'est-ce pas lui-même, je parle de Razali, l'argument de l'islam, Hujjatul Islam, et sa preuve hein, qui s'exprime à son intention. Ajoutons que, pour le musulman, une affirmation du Coran est une affirmation de Dieu lui-même. L'évidence du texte n'est pas uniquement un ressenti psychologique de type rationnel. Celui-ci s'articule à l'intérieur d'un dispositif de valeurs affectives, reposant sur le respect du sacré, la soumission au commandement divin et l'obéissance de la foi. L'on comprend ainsi Maoudoudi lorsqu'il écrit « La foi est ce que nous avons appelé connaissance et conviction ». Dans son vécu, le musulman se fonde sur une double base apodictique. 1. Dieu lui parle avec des procédés d'exposition inédits. Choisit un prophète pour lui adresser sa parole lui-même condensée en un livre, le Coran. En deuxième lieu, concomitamment, Dieu lui affirme que ceux qui ont le savoir lui enseigneront ce qu'il ne saisit pas ou n'a pas saisi. Prenons la constatation procédée des plus utilisés dans le Coran après l'assertion. À partir d'une constatation cadre, le musulman est amené vers un attribut divin. Les versets 5 et 7 de la sourate 16 fournissent un exemple saisissant. Dans un lyrisme abouti, c'est une longue phrase descriptive qui finit par une envolée grandiose dans sa simplicité. Si vous permettez, et si le temps le permet. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. En une phrase, le pronom personnel cum, valant pour vous et votre, est employé 4 fois en plus des 4 verbes à la deuxième personne du pluriel. L'harmonie spécifique faite de l'homophonie, de la métonymie et d'un ton simple et intimiste subjugue le croyant tout en le conduisant devant la présence des attributs de Dieu. Il est créateur, affectueux, généreux, miséricordieux, bien entendu et toujours avec les croyants. Il n'est question que de cela ici. Des attributs demeurerait abstrait sans cette présentation concrète sortie du réel du croyant, sans cette harmonie fascinante de la langue dans le Coran. Des attributs indiqués par Dieu comme relevant de l'enseignement et des commentaires des détenteurs du savoir. La facture de 2 versets parmi les plus célèbres est remarquable. Il s'agit du verset du trône et de celui de la lumière. L'agencement du premier procède par des affirmations qui, habituellement, closent les versets. Ici, d'emblée, l'unicité divine est affirmée, suivie de deux attributs divins essentiels, vivants et subsistants. Puis le texte devient descriptif avec un quasi-énalage, aboutissant à l'image du trône en puissante allégorie de l'idée du règne de Dieu. Si vous permettez, pareil. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. Donc, plaît-il? Donc le texte devient descriptif, comme je vous ai dit. Deux noms divins plus usités, très hauts et très grands, ferment le verset en guise de note intense de conclusion. Le croyant se sent pénétré par la parole tellement belle, tellement ordonnée qu'on en est vrai. Cependant, on peut remarquer que les affirmations du verset appartiennent à l'expression langagière d'autres monothéismes. Vivant et subsistant, avec les mêmes racines sémitiques, dans Daniel 6, 27, sommeil et somnolence, pareillement, dans le psaume 121, 4. Ce qui est inédit ici, c'est l'agencement propre au Coran. Dicté par Dieu, source suprême et garant de l'origine divine de la parole. Chez le croyant, la réceptivité se confond avec la conscience et la persuasion avec la croyance. Son ressenti participe avec son vécu. Poétique, le verset de la lumière, 24-35, emploie deux autres expressions sémitiques. Donc, l'énumération et la gradation. At-tartib wa ta'did. La parabole de « Sa lumière est comme une niche » rappelle indubitablement un passage de Zacharie 4, 2 à 3. Et l'olivier, image, symbole, est à rattacher au texte talmudique « La lampe des solitaires se trouve dans la poésie anté-islamique ou dans les textes de moines chrétiens rencontrés au nord de l'Arabie ». C'est dire la puissance suggestive de ces versets pour un homme, familier de ces images ou pas. Il se sent emporté à la fois par la délectation lexicale et par l'enchaînement syntaxique. Vocabulaire et propositions sont vérité pour la conscience. Le raisonnement coranique caractéristique se présente dans la majorité des cas à l'intérieur d'un système binaire. Il y a Dieu et ce qui n'est pas Dieu. Le vrai et le faux. Le croyant et l'infidèle. Le bon ordonné et le mal interdit. Le châtiment et la rétribution, etc. Ce dualisme est parfois une pure figure de style, bien connue dans la poésie sacrée de certaines langues sémitiques comme le syriaque. Néanmoins, le Coran coulera son raisonnement dans ce prototype binaire, avec effet immédiat en raison de la forme systémique de la tonalité générale donnée du texte. L'ensemble fera parler Massignon de, je cite, dialectique du dilemme et l'alternance entre la présence et l'absence du fait. Il désignera une logique de l'intuition que le Coran présente comme loi révélée à la raison. Pris parmi une multitude d'autres pareils, voyons le verset 28-88, où il est dit « Et n'invoque nulle autre divinité avec Allah, point de divinité à part lui, tout doit périr sauf son visage. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. » Donc, la tadouma Allahi ilahan akhara, la ilaha illa huwa, kullu shay'in halikun illa wajhahu, lahu al-hukm wa ilayhi turja'un. s'y succède un commandement et une affirmation. Et il finit par la justification de cette affirmation. Ce verset est l'illustration idoine de notre propos. L'ordre est sans faille. Il en va de même pour l'affirmation. La négation absolue, deux fois, suivie de l'exceptif, amplifie la portée escomptée. C'est la même particule, il l'a, deux fois, du cri monothéiste islamique, la ilaha illallah. La cascade sonore, jaillissante du lame, submerge le cœur du croyant. Il y en a 11 lames dans 19 vocables dans la même phrase. Le cœur du croyant est investi et son esprit avec. Elle est ressentie comme un délice lexical des augures supérieurs. Ce type de construction de verset appelle une réponse tranchée. À chaque segment de la phrase, la réponse ne peut être que oui ou non. La première affirmation est au négatif. Bien sûr qu'il n'est pas possible d'invoquer d'autres divinités que Dieu. Cette proposition ne cherche pas à s'interroger sur ces divinités éventuelles possibles, ni sur leur nature, mais appelle une réponse alliée à la dernière affirmation. Tout doit périr sauf son visage. Le Coran ne cesse de le rappeler. Dieu seul est éternel et parfait. Tout ce qui est homme montre sa contingence. Toute créature périt. Celui qui périt ne peut être Dieu. Comme tout périt sauf Dieu, lui seul est Dieu. Ce syllogisme, sans être exprimé, mais intuitivement perçu, dynamise l'affirmation coranique « Il n'y a pas de divinité sauf lui » de 255. Le Coran contient plus qu'une théologie naturelle. Selon le dogme islamique, il s'agit bien d'une théologie naturelle rappelée et revivifiée par une révélation concrétisée par une religion positive. Positive avec reconnaissance et d'un envoyé de Dieu auquel la communauté doit obéissance absolue et d'un livre sacré, le Coran, cœur battant d'un code de vie, Maududi. Le croyant convaincu ne ressent point un besoin de rationalisation. Son vécu est fait d'une connaissance infuse, intuitive, psychique de la croyance. Une obéissance de l'intelligence sous la motion de la volonté à une parole présentée comme révélation de Dieu. Dans le ressenti, comme dans le vécu du musulman, la question de l'authenticité de la mission du prophète est capitale. Elle apparaît en deux temps dans le Coran. D'abord, l'aide miraculeuse de Dieu qui secourt Mohammed et les croyants à la guerre. Deux, ensuite, le miracle du Coran lui-même. Dès les premières années de la prédication de Mohammed, le Coran assimile la mission du prophète à celle des envoyés qui l'avaient précédé. Il décrit l'hostilité rencontrée par ses prophètes antérieurs au sein de leur peuple. Mais l'aide miraculeuse de Dieu les a fait toujours triompher. Il en sera de même pour Mohammed et le Coran de menacer ses ennemis. Plaçant les envoyés de Dieu au centre de l'histoire avec Mohammed en exergue, en tant qu'héritier de la lignée prophétique, le Coran compare le prophète à Moïse. À chaque évocation des anciens prophètes, l'utilisation de « avant toi » n'est pas anodin. Elle souligne la communauté de mission de l'un par rapport aux autres. Le Coran s'adresse à la foi du musulman, sans autre argument. Sans être encore un raisonnement, la certitude concernant la prophétie de Mohammed est actionnée dans l'esprit du musulman. L'aide divine aux envoyés est répétée et rappelée opportunément. Les musulmans prient Dieu de leur donner la victoire sur les peuples infidèles. 2.286. En regard de cette certitude, le Coran abonde en descriptions fort imagées des miracles du passé, qui furent des châtiments des incrédules. Lot, Pharaon, Léad, Madian, etc. Ces récits à fort pouvoir suggestif deviennent dans le mental du musulman des preuves irréfutables étayant l'enseignement du Coran. Pour le croyant, ces récits d'un passé invérifiable, admis sur la foi de l'autorité du texte, le Coran, non sans subtilité, les met en parallèle évident avec des faits contemporains constatables par tout un chacun. Le Coran invite même les croyants à regarder les ruines des peuples anéantis afin de méditer sur la malédiction qui frappe ceux qui osent traiter de mensonge le message des envoyés. 16-36. Regarder des ruines n'a jamais été un argument pour apporter une certitude. En revanche, le caractère concret des images agit sur l'affect et sur l'émotion. Cet effet émotionnel, s'ajoutant à l'argument du succès, comporte un impact indéniable sur les sentiments du croyant. De fait, on prend un exemple, dès la victoire de Badr en 624, déclarée par deux fois comme preuve de l'aide de Dieu aux croyants, le procédé subliminal était mis à l'œuvre. Dans sa traduction du Coran, Hamidullah dira que la victoire de Badr a été voulue par Dieu pour avérer le vrai. Pour les Jalalayn, ce sera pour manifester le vrai. Dieu valide cette saisie en leur promettant d'envoyer un millier d'anges en renfort. La victoire des croyants, c'est Dieu qui l'a décrétée, l'a voulu, a combattu pour faire triompher son envoyé et ses combattants. Pour le musulman d'hier et d'aujourd'hui, la victoire de Badr est une évidence qui corrobore la vérité de l'islam. Nasser, le politique du XXe siècle, haranguait les foules, alors que c'est un matérialiste marxiste, lors de la guerre, en émaillant ses discours de formules coraniques guerrières pour obtenir une réaction immédiate du peuple. Le grand cheikh d'Al-Azhar expliquait en ce temps-là aux soldats la raison de l'échec militaire par le manque de foi des musulmans. Vous avez manqué de foi. Vous n'avez pas été assez croyant. Le musulman, dans sa vie courante, ressent cette assurance de vivre dans la bonne voie que Dieu a voulu pour lui, même si l'idée de vérité de sa croyance n'est pas sa première pensée. Son ataraxie est complète. Malgré tout, l'argument fondamental de l'apologétique islamique demeure le miracle coranique lui-même. Nous lui avons consacré une étude, tant il s'est avéré que nous sommes, avec cet argument, au cœur de la certitude des musulmans. S'appuyer sur un miracle d'ordre littéraire et scripturaire est unique dans l'histoire religieuse de l'humanité. Les conséquences qui en découlent sont immenses, puisque ce livre provient tout entier de Dieu, du point de vue islamique. Il est la source de toute certitude. Il peut donner une grille de lecture des événements et tout fidèle qui voit la réalité à travers lui se sent à la fois valorisé personnellement et en sécurité totale dans ses démarches. Tout le reste prend alors un caractère relatif. Dit Jomier. Pour le musulman, sa religion est la religion immuable, al-Din al-Qayyim. Idée forte, conduite dans le livre dans une progression perçante. En un, d'emblée, le Coran arrête un discernement net entre la religion selon lui et la religion des autres. Lakum dinakum wali dini. 109-6. Ensuite, toujours dans la progression, au départ de la gradation, Dieu parle de la religion de l'immuable, din al-qayyimati, qui est « wazalika dinul qayyimati ». Dans la traduction de Médine, ils ont contourné la difficulté et ils ont traduit « la religion de droiture ». Mais chez les commentateurs et chez Blacher, c'est « la religion de la communauté immuable ». Troisième pas, il précise ensuite « qu'il n'impose aucune gêne dans cette religion. Elle est donc pour tous, accessible à tous. Ma ja'ala alaykum fi d-din min haraj. Quatrième étape, le Coran insiste sur Dieu, accréditant Muhammad, il l'envoie comme son messager avec la religion de vérité. Dans Médine, c'est rendu par la religion de vérité, et entre parenthèses, l'islam, pour la faire triompher sur toute autre religion. Et puis, rendu dans cette dernière occurrence, dans la version de Médine, pour la 9.33, la religion de la vérité. Donc, c'est toujours... Pardon. Cinquième étape, je promets d'arrêter. Voilà, c'est vrai que j'aurais pu... La religion acceptée d'Allah est l'islam. C'est la dernière étape dans cette gradation. Inna ad-dina 'indallahi al-islam. Donc 3:19, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli pour vous mon bienfait. J'agrée l'islam comme religion pour vous. Persuasif, cette parole écrite imprègne en élixir magique l'esprit du musulman, qu'il soit instruit, pieux, sociologique, pratiquant, soufi, non pratiquant, chacun aura à cœur d'interpréter la parole révélée. Jusqu'à la fin du IIIe siècle, après la fin de la révélation, le champ de cette activité était plus ouvert. De nos jours, une élite nécessairement minoritaire s'interroge à tous les niveaux du vécu comme du ressenti du musulman face à la parole. J'aurais aimé vous en donner quelques exemples, le temps nous manque, peut-être cela figurera-t-il dans la publication des actes. Je vous remercie et demande pardon humblement à M. Laurie.